Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau module du cours dédié au développement sur Windows 10 et sur, sur la Universal Windows Platform.
Compliqué à dire.
Compliqué à dire, surtout quand on le répète depuis le début de la journée. Et aujourd'hui, nous allons voir les liaisons de données et la performance, qu'on appelle le binding. Je m'appelle toujours Sébastien Bertus, je suis toujours avec Technical Evangelist chez Microsoft France. Mon Twitter, c'est toujours Sébastien Bertus et je suis toujours accompagné de JS.
Voilà, donc Jean-Sébastien Dupuis, toujours également dans la même équipe. Voilà, et mon Twitter, c'est DupuisJS.
Allez,
on est parti sur les performances.
On est parti sur les performances et sur le binding. Alors, voilà globalement ce que l'on va voir pendant cette prochaine demi-heure. Beaucoup de choses sur le binding, évidemment, mais la première chose que je voulais aborder, c'est les performances natives avec Windows 10. Ça, c'est quand même super important. On a encore amélioré les performances de vos applications modernes sur Windows 10, les applications universales, les UWA, les Universal Windows Applications. Sachez que la communauté nous avait remonté qu'effectivement, il y avait des problèmes de démarrage quand on avait des arbres XAML qui étaient complexes. C'est vrai que pour les exemples que l'on vous montre pendant ces cours sont assez simples, donc on ne voyait pas trop la différence, mais sur des applications qui étaient très riches, eh bien on avait des petits problèmes de performance. Et par défaut, juste en portant votre application sur Windows 10, eh bien on a gagné en performance sur la construction de ces arbres. On verra qu'après, il y a des astuces, des techniques pour encore améliorer ces performances. On a aussi réussi à bien finalement réduire la consommation de mémoire. On a réussi à mieux gérer quelque chose qui était très demandé, c'est souvent le défilement très rapide des listes. Et bien ça, c'est beaucoup mieux géré aujourd'hui en termes de performance. Et on a aussi améliorer les performances, notamment des animations, surtout sur les animations qu'on a par défaut et qui sont fournies et qu'on peut utiliser directement.
Alors peut-être qu'il y a une slide après. Vas-y, très bien. Ok, ben c'est parfait.
C'est sur données natives.
Ok, c'est très bien. Voilà.
Alors les bénéfices par défaut de la plateforme UWP, sans parler de données natives encore. C'est lié à données natives. C'est finalement, vous voyez ici globalement les gains de performance. Alors plus c'est bas et mieux c'est. Les séries grises sont les éléments qui sont rapportés sur des UWP par rapport aux applications modernes que l'on avait sur Windows 8.1. Et donc, JS, toi qui es le spécialiste du sujet, d'ailleurs tu nous as fait un super article qu'on peut aller lire sur .NET native. Est-ce que tu pourrais juste nous en dire un petit mot
Alors,
en 3 minutes?
C'est relativement pas trop compliqué, mais ce qui est compliqué, c'est ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire que .NET natif, c'est déjà une techno qui s'applique uniquement au code qui vient de .NET, c'est-à-dire que ça s'applique uniquement aux applications qui ont été développées en C# et en VB. Alors, je ne vais pas refaire tout l'historique, mais l'idée, c'est que finalement, quand on compile en .NET, on a un code intermédiaire qui est un code IL. Voilà, et c'est vraiment ce code qui est recompilé en code machine uniquement lorsque l'application est exécutée sur le poste cible. Ça a un impact effectivement pour le démarrage de l'application et pour la consommation mémoire. Et maintenant, pour pallier à ce problème-là, ce qu'on a fait, c'est qu'on propose directement de recompiler à la base le code source et de créer un package qui va être celui du code machine. Alors, pour le faire simple, c'est le store qui va recompiler notre code et qui va créer des packages qui vont cibler x86, x64 et ARM. Donc tout ça, ça va être géré côté store. Et donc du coup, quand vous téléchargez votre application, elle est déjà prête à l'emploi. Il n'y a pas besoin de repasser une passe pour recompiler en code machine. Donc ça veut dire que c'est déjà fait pour vous et c'est ça qui gagne en termes de performance.
Alors, deux choses à remarquer sur le sujet. Le numéro de version.
Oui. Vu que c'est recompilé à la volée pour vous
par le store,
il peut se produire que la partie framework .NET native, on fasse des optimisations, qu'on corrige éventuellement des bugs. Voilà, on sait très bien que ça peut y arriver. Et dans ces cas-là, le store se réserve le droit de recompiler notre application, mais de manière complètement transparente. Et donc, du coup, sur le numéro de révision de votre application, alors vous avez 4 chiffres dans votre numéro, c'est uniquement le dernier, celui de la fin, ça va être incrémenté directement par le store.
D'accord. Et la deuxième chose, c'est le temps de compilation en .NET native.
Ouais, alors ça veut dire que si vous travaillez en mode debug, on n'utilise pas du tout .NET native pour la compilation, ça se fait comme avant, c'est rapide. Par contre, si vous basculez en mode release, par défaut, .NET native est utilisé. Et on va, même si c'est compilé par le store, eh bien, on va créer quand même un package de tests sur la machine en local que vous allez pouvoir tester et vérifier. Et ce package de tests prend beaucoup de temps à compiler, bah, en tout cas beaucoup plus qu'avant. Donc, si vous ne comprenez pas pourquoi votre Visual Studio prend 2, 3, 5 fois plus de temps, bah, vous pouvez prendre un petit café, c'est parce qu'on est en train de compiler votre application en .NET natif.
Alors surtout, hein, faites vos tests en debug ou en release classique, mais n'oubliez pas aussi de le tester en mode .NET natif pour ne serait-ce que voir ce que va générer le store, hein, voilà. Et voir aussi les différences de performance. Bien, ceci dit, d'autres éléments qui rentrent en compte, alors les éléments textes sont quand même beaucoup utilisés, donc aujourd'hui sur des calculs de performance, ils sont rendus 50% plus vite, donc ce qui est plutôt pas mal. Voilà pour ça. Ça, c'est par défaut.
C'est cadeau.
C'est cadeau. Nous allons parler du data binding, ce qu'on appelle la liaison de données. Alors, pour faire simple, hein, lorsqu'on met une grille et qu'on met un text block et un bouton, eh bien, si on écrit en dur, eh bien, il n'y a pas trop d'interactivité. Moi, ce que je voudrais, c'est, par exemple, changer la valeur du champ text block, suivant si je suis en français ou en anglais, ou suivant ce que je récupère d'une collection que j'ai en base de données, etc. Donc c'est là qu'intervient ce qu'on appelle la liaison de données. La liaison de données entre votre interface graphique et finalement votre code. Okay. Alors pour ça, eh bien, il y a plusieurs techniques. Une technique qui a été plébiscitée et qui est en vogue, c'est ce qu'on appelle un pattern, qui est le pattern MVVM, modèle vue vue modèle. Et c'est ce pattern-là qui est finalement un de ceux qui est le plus utilisé. Et ça va très bien pour tout ce qui est XAML, parce que finalement, on a une vue qui est XAML qui représente ce qu'on voit, et on a aussi tout ce qui est modèle et tout ce qui est code, et tout ce qui est service qui est vraiment dans du code. C'est vrai que ce pattern s'applique très très bien. Donc l'idée, c'est quoi? C'est d'avoir ce qu'on appelle un modèle qui est finalement votre objet de base. Vous avez votre vue, et entre les deux, vous avez la représentation de votre modèle pour la vue. Ce qu'on appelle la vue du modèle, le view modèle. Et c'est cette vue-là que l'on va utiliser et qu'on va lier à nos contrôles. Une fois que vous avez cette vue modèle qui est prête, eh bien on va juste la référencer dans notre code XAML et faire la liaison sur, par exemple, sur le text block, sur le bouton, grâce à un mot-clé qui s'appelle binding, que l'on va mettre entre accolades et qui va récupérer la propriété message de notre vue modèle.
Ça fait vraiment le lien entre le contrôle et notre donnée. Quoi.
Exactement. Et du coup, là, ben forcément, le texte prendra... le contenu de la propriété message ou button text qui pourra varier suivant ce que mon code exécute comme code. Voilà. Sachez que votre vue modèle, la petite différence qu'il y a souvent entre le modèle, c'est que le modèle, c'est vraiment une classe POCO qui n'hérite de rien, qui n'implémente rien à la rigueur. Et souvent, ce que l'on fait, eh bien, on implémente des interfaces qui sont inNotify Property Change, qui permet de prévenir les contrôles qui sont bindés dessus, qui sont liés dessus, qu'il y a une propriété qui a changé. Ça, c'est extrêmement pratique quand on veut changer la propriété d'un text block ou d'un text box lorsqu'on va valider, etc. C'est la vue modèle qui dit hop, ma propriété a changé, pam, je préviens mon contrôle qui voilà, lui va rafraîchir.
Ça envoie juste une alerte au contrôle pour se rafraîchir.
Exactement. Okay. Et inNotify Collection Change qui est moins utilisé parce qu'il est par défaut implémenté dans ce qu'on appelle inObservable Collection qui est vraiment la facilité qu'on a d'inclure dans une liste qui s'observe nos éléments. Alors, donc, une liste d'éléments se retrouve observable collection d'éléments vue modèle pour notre interface. Mais de toute façon, ne vous inquiétez pas, on va faire un exemple, c'est assez simple à comprendre.
Ça permet d'alerter si, par exemple, je rajoute dynamiquement ou j'enlève des éléments dans ma liste, de pouvoir que le contrôle les supprime et les enlève
exactement.
À l'affichage.
Exactement. La syntaxe du binding, vous voyez, ce n'est pas très compliqué. Donc, le mot-clé binding, et après, vous avez plein de propriétés que vous allez pouvoir utiliser. Alors, notamment la source qui dit où est-ce que je vais chercher ma donnée, le pass, qui est la valeur par défaut, qui est la propriété par défaut qu'on peut remettre, qui est donc le chemin vers la propriété que je vais récupérer. Mais vous avez aussi les converteurs qui vont permettre de convertir une donnée brute. Je vous prends une date, par exemple, une date, lorsqu'on fait un toString sur une date, elle n'est pas forcément formatée comme on le veut. Il y a la date, l'heure, les minutes, les millisecondes. On aurait peut-être l'écrire plutôt sous forme verbeuse, mercredi 23 octobre, par exemple. Le converteur va nous permettre de faire ça. Et vous avez aussi l'update source trigger, qui est moins connu, mais pourtant extrêmement efficace, qui permet de dire quand est-ce que les événements de changement sont levés. Sur un text box, par défaut, il est levé lorsque je perds le focus. On peut changer cette valeur pour lui dire dès que tu appuie sur une touche, dès que le textbox change sa valeur, eh bien, je peux lever l'événement. Donc ça, c'est vraiment super intéressant. Le target new value, qui est pas mal aussi lorsqu'on récupère une valeur nulle, ben, la remplacer par une chaîne de caractères. Ouais. Veuillez renseigner votre nom, par exemple. Voilà. Je vous parlais des converteurs, ben voilà, le converteur date dont je parlais. Donc un converteur, ben on en fera un tout à l'heure, mais c'est une classe que vous allez écrire qui va convertir eh ben, une chaîne, on va dire un objet, un type particulier, en un autre, souvent en chaîne de caractères. Et vous avez donc deux méthodes à remplir, la convert et la convertback. Souvent la convertback qui fait le chemin inverse est plus ou moins peu utilisée. Bien, ce que je vous propose, c'est vraiment de le coder hein, pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Alors, hop, ici. Donc ici, ce que j'ai une page, vraiment un peu plus simple. Donc je vais me mettre sur la version desktop. Donc ici, là voilà. Donc une page blanche dans laquelle j'ai mis, alors je vous montre le code XML, ça ira plus vite. J'ai mis une grille avec deux colonnes dans laquelle j'ai une list view. Ça va?
Pas mal.
Tout est pas mal. Et après, j'ai fait ma fameuse main page view model. Cette fameuse page qui va me donner une vue de mes éléments. Et ces éléments, c'est quoi? Ce sont ce qu'on appelle des to-do items qui sont dans le répertoire models. Or, c'est plutôt classique comme architecture de répertoire, hein, qui est donc dans laquelle j'ai juste une propriété de title.
Okay.
Okay. Pour cet exemple-là, je ne vais pas implémenter notify property change parce que mon titre, je ne vais pas avoir besoin de le modifier. Okay. C'est pour être plutôt simple. Ma main page view model, c'est elle qui est chargée de remplir ma liste, mon observable collection. Donc là, j'ai fait ça en dur, hein, mais on imagine aller récupérer sur une web API, sur un fichier JSON embarqué en dur, enfin bref, que sais-je. Hein. Moi, pour faire simple, je l'ai chargé rapidement. Et je mets ça dans une propriété que j'appelle items, que je vais exposer, en tout cas qui est une propriété qui est publique. Et ici, c'est ce qu'on appelle une main page view model qui se trouve dans databindingSample.viewModel, qui est donc le namespace.
D'accord.
Donc sur ma page ici, donc je vais déclarer ici ce qu'on appelle un data context, qui est vraiment le contexte courant de l'ensemble de ma page.
Okay. Ouais.
Et dans ce data context, je vais rajouter une instance de ma main page view model. C'est que dans une page XML, bien, tout ce que j'ai ici, ce sont finalement des objets. Et je peux, pourquoi pas, eh bien, déclarer une instance de ma main page view model sous forme XML.
D'accord.
Pour ça, ici, il faut que je rajoute un raccourci sur mon namespace ici, que je vais appeler VM, qui est donc égal à, ça c'est juste un raccourci, hein, c'est pour éviter de l'avoir à écrire en entier, ViewModel. Et pour tout à l'heure, je vais aussi rajouter quelque chose que je vais appeler M, qui va être Model, on verra ça tout à l'heure, hein, pourquoi j'en ai besoin. Surtout là, ce que j'ai besoin, c'est de déclarer ici, donc, une main page view model, tu vois l'intelligence me la remonte, et ça c'est comme si j'avais fait new main page view model, que je mets ça dans une variable.
Hein. Okay. Okay.
Donc vraiment, si j'ai une instance que je vais pouvoir utiliser. Donc ça, c'est mon contexte courant. N'importe quel élément qui veut accéder à mon contexte, je vais pouvoir le faire via le mot-clé binding.
Okay.
Okay. Et je vais directement accéder à ma main page view model. Okay.
Et donc
ici, j'ai une liste.
Voilà.
Et pour faire ça, eh bien, je vais appeler la propriété item source, qui est ici. Et je vais lui dire binding. Donc lui, il sait que c'est item, que c'est main page view model. Et dans main page view model, j'ai une propriété qui s'appelle items, on l'a vu tout à l'heure. Je vous le remontre, hein. C'est celle-ci, ici, là, items. Et tu vas voir qu'ici, normalement, si j'ai de la chance, mais tu vois, j'ai même l'intellisense.
C'est okay. Merveilleux.
Et automatiquement, regarde ici.
Il se passe des choses dans l'interface.
Voilà, comme c'est codé en dur, c'est vrai que du coup, ben, lui, il sait l'interpréter, il sait me le montrer. Je te montre ici en faisant un gros zoom. Si je me mets à 200%.
Et il affiche quoi dans la page?
Il affiche le titre de
l'item.
C'est pas super.
Non.
Donc moi, ce que je voudrais, c'est vraiment qu'il affiche le titre de mon to-do item.
Ouais, là, en fait, il a récupéré le toString par défaut qui est finalement le type
de l'objet.
Ouais. Okay.
Donc pour faire ça, je vais lui dire listView. Il a une propriété qui s'appelle itemTemplate qui peut prendre ce qu'on appelle un dataTemplate. Et le dataTemplate, c'est quoi? C'est la représentation graphique d'un élément de type to-do item. Et je lui dis, mets-moi ça dans un texte bloc.
Par exemple.
Donc toujours pareil, dont la valeur texte sera égale à binding. Et donc là, c'est la propriété, non pas de la collection, mais d'un élément de la collection. Ça, il le sait. Et donc normalement, si j'ai de la chance, tu vois, il a repéré qu'il y avait une propriété qui s'appelle title.
OK.
Tu vois. Et automatiquement, une fois que je refermé les accolades, tac, tac, eh bien, tu vois, regarde. Il a même, sous la surface de design, il a réussi à me récupérer mes éléments.
C'est déjà plus sympathique.
C'est déjà plus sympathique. Donc là, je vais faire un F5 juste pour vérifier que ça marche. Hein. On n'est pas à l'abri d'une erreur, mais enfin, quand ça marche sur la surface de design, c'est que c'est plutôt bon signe en général. Hein. Voilà, ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Juste pour le fun, je vais créer un converteur. Donc pour ça, en général, ce que je fais, je rajoute ici
un petit répertoire
que j'appelle Converters. Et ici, je rajoute un converteur. Alors, qu'est-ce que tu veux faire comme converteur, JS ?
Fais-moi rêver. Je sais pas, on lève le task éventuellement.
Allez, d'accord. Donc c'est le without task converter.
Ou met tout en majuscule ou en minuscule. On peut faire ça aussi.
Je suis parti sur le without task. Hein. Voilà. Donc c'est une autre classe qui va être publique. Hein. Et elle hérite de cette fameuse interface e-value converter. Alors, tu ne le trouves pas dans IntelliSense. Pourquoi ? C'est parce qu'il est situé dans un namespace que je n'ai pas référencé, ce qui est Windows 8 XML Data.
Okay.
Donc, je le rajoute et paf, ça devient vert. Voilà. Du coup, j'implémente l'interface. Et ici, j'ai le convert et le convert back. On va faire que dans un seul sens. Donc, le convert back, on ne s'en occupe pas. On laisse l'exception. De toute façon, on ne passera jamais dedans. Par contre, ici, je sais que ma valeur ici qui arrive, c'est un champ de texte. Mm-hmm. Donc, je peux faire string value originelle, pardon. Original value, donc c prend. Alors je peux faire un direct cast, hein, string value, puisque on sait que c'est forcément cette valeur là. Et après, je voudrais la renvoyer avec sans la chaîne
task devant.
Task. Donc on va faire return original value point. On va faire juste un replace de task par rien. Et comme tu voulais un to upper,
allez,
eh bien on va le faire to upper. Okay.
Okay,
donc j'ai transformé mon élément et tu vas voir que je vais compiler et je pense même que déjà sur la surface de design on va le voir hein, qui va fonctionner. Hein. Donc si vous venez sur ma main page.
Faut que tu le précises quand même.
Il faut que je précise quand même, effectivement. J'ai fermé pour rafraîchir, mais ça ne servait pas à grand chose. Allez, tu as raison. Il faut donc que, toujours pareil, je fasse un raccourci vers ce converteur. Donc je vais appeler ça COV, moi j'appelle ça comme ça souvent. Et je dis donc que c'est mon converteur ici. Et je vais le déclarer dans les ressources de ma page. Donc page, oh non, je vais directement le déclarer dans les ressources de la grille. Allez hop, grid.ressources. Voilà, je vais donc appeler ça, donc c'est un converteur. Conv de point, without task converter, je lui passe cette fois-ci une clé, puisque je suis dans une liste de ressources.
Tout à fait.
Je vais appeler ça, donc moi souvent je l'appelle du même nom, hein, c'est, voilà. Why not? Voilà. Et après ici, je vais faire un copier-coller. Je vais donc rajouter ici ça là-dedans. Donc je vais dire ici que son converteur, c'est
static ressource.
Static ressource, c'est parce que je vais directement aller chercher dans le fichier de ressources de ma grille. Donc elle est statique. Et tu vois qu'automatiquement, eh bien, ça m'a enlevé le task et ça m'a tout mis en majuscule.
C'est merveilleux.
Vous pouvez encore aller plus loin, hein. Vous pouvez passer des paramètres, hein. Vous pouvez gérer la localisation,
la culture,
ouais. Il y a pas mal de choses à faire. Mais en tout cas, voilà, vraiment quelque chose d'assez simple. Mais ô combien utile. Alors après, il y a des débats, est-ce qu'il vaut mieux prendre un converteur plutôt que mettre ça dans la view model ? C'est des choses qu'effectivement, qui sont sujets à débat. En tout cas, sachez que...
Les deux sont possibles. Voilà. Faut pas hésiter à utiliser celui que vous trouvez le plus pratique.
Exactement. Bien, donc ça je vous ai montré, donc ça c'était la version on va dire classique qui existe depuis longtemps. Force est de constater que on avait souvent des... la démo Element Name, j'y reviendrai juste après. Avant de passer au mode de performance, juste quelque chose que j'ai rajouté dans les slides parce que moi vraiment je trouvais ça tellement compliqué avant pour travailler. On n'avait pas la possibilité de s'abonner au changement de valeur d'une dependency property. Pour ceux qui connaissent bien le problème, sachez qu'aujourd'hui on a rajouté sur le dependency object une méthode qui s'appelle register property change callback qui permet de récupérer lorsqu'une valeur d'une dependency property a changé. Avant, quand on déclare une dependency property, on peut s'abonner sur le changement, mais quand on a un contrôle comme le bouton sur lequel on n'a pas les sources, c'était la seule façon de faire ça, on ne pouvait pas. Donc maintenant, on peut le faire grâce à ce genre de morceau de code-là. Donc cela, je vous le laisse sur les slides, vous l'aurez comme ça pour savoir comment on fait. Bien, allez, donc le binding, c'était très bien, le binding simple, mais c'était performant quand on a des trucs assez simples. Et force est de constater que le modèle était moins performant pour pas mal de choses. Donc du coup, quand on voulait vraiment avoir des interfaces réactives sur des machines qui étaient peut-être moins efficaces que nos PC, eh bien, le binding avait été en tout cas une des choses qui faisait que ben, ça ralentissait un petit peu.
On va le voir, mais c'est vrai que c'est fait à l'exécution. Donc et puis, ça prend un peu de temps.
Il y avait un petit peu de réflexion derrière, donc effectivement, voilà. Ça prend plus de temps. Et donc, sont arrivés avec UWP ce qu'on appelle les bindings compilés. Les bindings compilés, c'est quoi? C'est à peu près la même syntaxe que notre mode binding, mais en plus en rajoutant de la performance. Alors, les équipes qui s'occupaient du binding ont pas mal réfléchi à comment faire. L'idée, finalement, c'est quoi? C'est au lieu de faire de la réflexion, finalement, ben, générer le code lorsqu'on va compiler notre application dans les fameux fichiers cachés .j.cs qui vont remplacer, qui vont finalement faire que le binding est codé et donc exécuté au runtime via du code qui est performant. Okay, et éviter d'avoir de la réflexion. Par contre, ça va donner quelques limitations. Okay, donc c'est ce qu'on va regarder maintenant. D'abord, des petits graphes de performance sur la différence entre le binding classique et le binding compilé. Je crois que c'est assez clair. Hein. Entre le binding classique, où finalement on a toujours des mécanismes de réflexion sur chacun des éléments, et le binding compilé qui finalement fait une première passe la première fois pour s'exécuter, et après, pratiquement plus rien.
Après, c'est magique.
Voilà ici des... Ah oui, il y a aussi une chose qu'il faut savoir, c'est que sur les bindings, on a des types de binding qui permettent de dire je me bind qu'une seule fois, puis après j'arrête, je me bind chaque fois que la propriété est modifiée, et je me bind dans les deux sens, que ce soit moi l'interface ou moi le code qui modifie la valeur.
Okay. C'est les modes one-way ou two-way?
One-way, one-time et two-way. Alors attention, aussi encore une chose qui a changé par rapport au binding classique. En binding classique, le mode par défaut, c'est one-way. Et en binding compilé, le mode par défaut, ça sera one-time. Voilà. Donc c'est aussi une chose. Et vous voyez encore une fois les différences sur 1600 bordures avec une couleur de fond liée, la différence entre le mode compilé et le mode non compilé. Okay.
Comment on met ça en place?
Alors le X-Bind, c'est du binding compilé. Ça marche forcément sur... C'est fortement typé. C'est-à-dire que le doctyping, j'adore cette expression. Je vous ai mis une petite charade. Le doctyping, c'est quoi? C'est ça ressemble à un canard. Ça sent comme un canard, c'est que forcément c'est un canard. Voilà, c'est ce qu'on appelle le doctyping. Le doctyping, ça marchait très bien avec du binding. Vous mettiez un objet de type client ou un objet de type voiture. Si dans ces deux objets, il y avait une propriété qui s'appelait nom, ça marchait.
On pouvait faire la liaison.
Bon, sauf que, bon, déjà, on va dire que, enfin, moi personnellement, je ne faisais pas ça, mais en tout cas, c'était possible. Pour le X-Bind, ça ne sera plus possible, il faudra vraiment bien définir le type. Le mode par défaut, on l'a dit, c'est one time. Par contre, tout ce qui est Inotify Property Change, tout ce qui est ViewModel, tout ce que vous avez l'habitude d'utiliser, ça continue à fonctionner. Quelque chose qui est extrêmement important, qui faisait partie du slide d'avant, mais je l'ai décalé dans celui-là, le contexte de données de X-Bind, c'est forcément la page dans laquelle on le déclare. C'est-à-dire que mon code que je vous ai écrit tout à l'heure, dans lequel le contexte, c'est la ViewModel, ne marche pas.
On abandonne le data context dans ce cas de figure.
Dans ce cas de figure, il va vraiment falloir le déclarer en tant que propriété. Okay, je vais vous montrer une petite manip qui permet d'allier un petit peu les deux, mais en tout cas, sachez-le. Si jamais vous commencez à mettre du X-Bind et puis vous dites « c'est bizarre, ça ne marche pas, je ne comprends pas pourquoi », c'est juste parce que vous utilisez l'ancienne méthode qui dit « je me lis un ViewModel qui n'est pas déclaré en tant que propriété de ma main page ». Du coup, vu que la source... c'est forcément la main page, et bien du coup la propriété n'est plus valable, comme relative source, comme element name, tout ça, ça dégage. Et oui. L'update source trigger, malheureusement, aujourd'hui, n'est pas implémenté dans XBind. Tout ça va évoluer. Hein. Allez, ça je voulais montrer. Voilà à quoi ça ressemble. Vous voyez que l'idée, globalement, c'est à peu près la même chose, sauf qu'au lieu de marquer binding, on marque x2.bind. Et lorsqu'on déclare en data template, il faut que le type soit bien déclaré. Ça, c'est extrêmement important. Voilà. Je vous fais une petite démonstration pour vous montrer à quoi ça ressemble. Je reviens là-dessus. Donc ici, je vais donc passer uniquement sur le XAML. Ici, j'ai ma liste view que j'appelle en mode compilé. Okay, donc ici, ce que je vais faire ici, il faut d'abord, vu qu'on sait que mon data context n'est plus valable, il faut ici que je déclare une propriété qui sera de type main page view model. Je suppose qu'il n'y a pas le using. Voilà. Que je vais appeler
default model.
default model, whatever.
Okay. Donc on rajoute la propriété dans la page dans laquelle on est.
Et là, normalement, ce qu'il faut que je fasse ici, c'est faire quelque chose comme ça. This.defaultModel prend new main page view model.
Par exemple.
Et là, c'est bon.
Ou de récupérer ton data contexte si tu as envie. Voilà. OK, par exemple.
Par exemple. Ce qui fait que du coup, ici, j'ai une instance ici qui tourne et une instance ici qui tourne. Ce qui est dommage.
Ouais.
L'astuce ici, c'est de quoi? C'est au lieu de faire ça, vous faites un truc comme ça. This.dataContextChange plus égal. Hop, je vais aller très vite. Je vais l'appeler comme ça. Et ici, ce que je vais faire, je vais lui dire This.defaultViewModel. Donc ici, globalement, quand le data context change, finalement, c'est ce que je fais de mon côté XAML.
Tu mets à jour ta propriété.
Et bien ici, je vais lui dire, prends-moi le data context et je vais le caster en MainPageViewModel. Voilà. Ça, c'est juste l'astuce au cas où vous auriez besoin d'avoir les deux méthodes dans la même page. Voilà, c'est pas très important, mais ça a le mérite d'exister.
Il y a quelque chose qui râle.
Alors, qu'est-ce qu'il a qui ne va pas?
C'est parce que tu n'es pas dans la classe avec ta propriété.
Je l'ai enlevé, c'est
non,
ça?
J'ai l'impression
que il y a une accolade en trop, là.
Ouais.
Voilà. Là, je pense que ça va mieux marcher. Failed. Et j'ai oublié, évidemment. Hop là. Voilà. C'est toujours les erreurs les plus stupides. Voilà. OK. Donc ça, c'est juste une petite astuce pour avoir le meilleur des deux mondes. Mais ce qui est important, c'est que vraiment, vous l'ayez déclaré ici.
Sinon, okay. Le compilateur ne peut pas s'y retrouver.
Exactement. Et donc ici, si je viens chercher dans ma liste, donc maintenant je peux travailler, je vais donc dire item source égale xbind, x2.bind, et là je lui donne directement le pass. Alors le pass, c'est la valeur par défaut qu'il ne me propose pas. Donc ici, globalement, le pass, c'est quoi? C'est celui-ci. C'est donc ma valeur qui s'appelle, pardon, c'est ma... Oula, je vais y arriver. Ici, c'est donc default model que je mets ici. Voilà.
Point items.
Et oui, parce que default model ici, c'est de type main page view model. Il faut bien que j'aille récupérer mon observable collection.
Exactement.
OK. Point items. Voilà. Une fois que j'ai ça, je peux continuer à travailler. Donc là, on est plutôt pas trop mal. Je vais reprendre ici mon data template. Donc ça marcherait. Je peux faire du binding classique. Mais évidemment, ce que je veux, moi, c'est lui dire... Je veux bien faire du XBind aussi sur title. Et donc là, encore quelque chose qui va changer, il faut absolument que je lui donne
un type
qui va donc être x2.datatype. Et c'est pour ça qu'ici, j'ai rajouté par défaut tout à l'heure le fameux using. Donc c'est un m2.todoItem. Et à ce moment-là, ici, je peux faire du XBind. x2.bind sur la propriété title. D'accord ?
Magique.
Là, je compile.
Donc, le binding compilé, finalement, non seulement ça va être performant, mais en plus, ça va avoir un aspect quand même assez pratique. C'est que si je me suis planté sur le nom de ma propriété, ben, je vais le savoir en plus à la compilation.
Exactement.
Alors, ça arrive de temps en temps quand même.
Je vais donc exécuter mon code pour être sûr que tout fonctionne. Et donc là, j'ai une vieille exception qui est levée.
Un petit debugger break.
Un petit debugger break. J'ai dû me tromper quelque part sur mon...
Alors, étudions ensemble le problème.
Alors, c'est peut-être le converteur qui l'embête. On va voir. Data template. Ça me semble plutôt cohérent pourtant. Voilà. Bon, j'ai dû faire une erreur sur le converteur, peu importe. Ça fonctionne. OK ?
Magique.
Magique. Donc là, évidemment, la différence de performance n'est pas très, très visible. Hein, mais sur des listes un peu plus complexes, c'est plus intéressant.
Donc finalement, on peut utiliser les deux. C'est-à-dire qu'on peut utiliser binding ou xbind. Ça dépend vraiment du scénario. En tout cas, le développeur a maintenant les deux possibilités en main. Est-ce qu'il y a des limitations par rapport à xbind ?
Alors, oui. Alors d'abord, XBind va évoluer au fur et à mesure des versions du WP. Sachez que par défaut, plus on peut utiliser XBind, mieux c'est, forcément, puisque c'est plus performant. Mais il y a certaines situations où on ne peut pas faire ça. Donc globalement, hein, le fameux doc typing, ben, quand vous faites ça, que vous avez du code qui est complexe à faire évoluer pour ou des architectures qui passent forcément par du doc typing, ben, il faudra utiliser le binding classique.
On reste sur binding.
Les graphes d'objets non typés, quand vous récupérez un graphe JSON que vous mettez dans un dynamique, par exemple, ben, il faudra utiliser encore du binding. Quand vous faites du binding, non pas par l'élément XML, mais par le code, que vous le rajoutez par code, eh ben, il faudra faire aussi du binding classique. Et quand vous faites du binding dans un style, eh bien, il faudra utiliser encore du binding. On peut utiliser du binding dans un data template qui est dans un style, mais pas directement dans un setter, d'accord, par exemple. Voilà. Donc, il y a encore 2-3 limitations sur le XBinding. Voilà, je reviens en arrière sur quelques slides, parce qu'on les a sautés du coup pour parler de ça. Je voulais que l'on parle aussi des templates et justement du rapport qu'ils ont avec XBind. Et ça, je crois que tu peux nous en dire quelques mots.
Alors, on a vu que sur le data template, il faut rajouter l'élément data type. Voilà. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si on souhaite utiliser un data template dans un ressource dictionary, il y a une spécificité aux ressources dictionary, c'est que vu que la partie XBind, c'est quelque part de la compilation qui se fait dans un code sous-jacent.
Génération de code.
Voilà, il y a une génération de code. Eh bien, il faut que le ressource dictionary il soit dépendant. Qu'ils dépendent d'une classe en code behind.
Parce que par défaut, en ressource dictionnaire, il n'y a pas de classe derrière.
Non, c'est que du code XAML. Mmh. Donc là, il faut préciser ce qu'on voit à l'écran, c'est-à-dire un X-class, et puis derrière, avoir un code behind.
Donc, il faut rajouter à la main la classe.
C'est la seule petite chose, et à partir de là, rien ne vous empêche d'utiliser XBind dans des ressources dictionnaires.
Donc la première fois, ça surprend quand on le fait que ça ne fonctionne pas. Une fois qu'on le sait, après,
ça
pose moins de problèmes. Et après, du coup, il y a juste besoin de le référencer dans votre app.xaml ou dans votre page directement, et ça fonctionne. Des petits tips, utiliser binding.updates pour des données asynchrones, donc éviter finalement gérer son propre temps de mise à jour. D'autres choses qui sont arrivées que j'aime beaucoup moi, que je trouve vraiment excellent, c'est le fait de pouvoir binder des événements. Alors ça évite d'avoir ces fameux event to common qui existaient avant, que la communauté avait développé pour pouvoir se suppléer à ce comportement-là. Aujourd'hui, on peut faire du binding avec du XBind sur des événements, avec des signatures bien particulières évidemment, mais en tout cas ça fonctionne. Attention, le pattern command qui était très agréable à utiliser parce qu'il avait notamment la propriété can execute, ça ne fonctionne pas avec le binding d'événements. Donc il faudra le gérer autrement.
Ça existe toujours bien entendu, voilà. Mais...
Oui. Si vous voulez utiliser en tout cas les ondes données pour les événements, sachez qu'elles existent. Donc pour ça, c'est bon. Binding stop tracking permet de mettre en pause toutes les liaisons compilées. Ça, c'est plutôt pas mal. Ça permet en tout cas de répondre à certains scénarios. Comment utiliser XBind ? Eh bien, si jamais vous avez un XBind sur un élément, vous allez directement utiliser la syntaxe monElément.saPropriété. Quand vous êtes en tant que relative source ou template parent, eh bien, il faut utiliser binding. Hein. Et surtout, n'oubliez pas de rajouter une propriété à votre page XAML pour que ça fonctionne. Puisque sa source, à lui, par défaut, c'est la page dans laquelle il se trouve. Voilà, ça c'est très important. La petite astuce que je vous ai donnée tout à l'heure, hein, qu'on a codée ensemble, donc je vous la mets encore une fois sur les slides. Voilà qui est fait. Donc ça, on l'a vu ensemble, donc je passe là-dessus assez rapido. Et on va passer à un autre chapitre qui se appelle le phase rendering. Alors phase rendering, on en parle assez rapidement parce que ça existait déjà dans Windows Phone 8.1 ou Windows 8.1. Ça permettait de rendre les éléments d'une liste par phase. Ça, c'était bien. Ça marche extrêmement bien pour des applications qui avaient besoin de beaucoup de performance et qui affichaient beaucoup d'éléments. Et ça permettait dans une phase numéro 1 d'afficher que le titre, dans une phase numéro 2 d'afficher l'image, et dans une phase numéro 3 d'afficher l'image, le titre, le fond et le nom.
Donc ça permet de donner une priorité aux éléments de liaison.
Exactement. C'est-à-dire que du coup, quand on allait très très vite pour faire défiler les éléments, l'image qui est peut-être plus longue à télécharger, eh bien, s'affichait que sur une deuxième passe. Mais en tout cas, on avait quelque chose qui s'affichait qui était au moins le titre et le contour bleu, par exemple.
Parce que finalement, si on n'a pas du tout de phase, le fait de charger les images, ça bloque les autres éléments. Et donc, on avait un peu le syndrome de la page blanche. On n'avait rien à l'écran.
C'est ça. Par contre, le gros problème qu'on avait avec les phases, c'est que c'était tout en code. Du coup, on perdait tous les mécanismes de template, tous les mécanismes qui sont inhérents au XAML, qui étaient quand même vachement agréables à utiliser. Et bon, on le perdait parce qu'il fallait tout coder. Donc du coup, c'était un peu embêtant pour les designers, c'était un peu embêtant pour l'expérience qu'on a dans Blend, c'était pas extraordinaire. Sachez qu'aujourd'hui, eh bien, ce phasage, ce comportement, eh bien, on l'a dans XAML, en spécifiant juste dans notre data template quelle est eh bien, la phase dans laquelle doit s'afficher notre élément. Alors, ça, c'est super parce que pour ceux qui l'ont fait, faire des phases par code, c'était vraiment une sacrée palanquée de code qui était plutôt complexe. D'ailleurs, chaque fois que moi je le fais personnellement, il faut que j'ai retrouvé mes anciens projets pour récupérer le code qui va bien. Aujourd'hui, vous prenez votre data template, vous mettez la phase à l'intérieur et ça fonctionne.
D'accord, et donc en fait c'est par ordre croissant, c'est-à-dire
Et
qu'on
c'est
peut
pas.
faire une phase 1, phase 2, phase 3,
Voilà.
phase 250?
Alors, en général, évitez de mettre trop de phases. Globalement, moi-même, je pense que j'ai jamais mis plus de trois phases.
Je pense que ça
Trois,
n'a pas
quatre
beaucoup d'intérêt.
phases, c'est vraiment le maximum, quoi. Sachez qu'en général, sur la première phase, on met ce qui ne se télécharge pas, la taille, le contour, la bordure. Sur une phase numéro 1, on va mettre ce qui se télécharge rapidement, c'est tout ce qui est texte. Et sur la phase numéro 3, enfin numéro 2, puisqu'on est sur la phase 0, c'est la première, on va mettre l'image qui se télécharge, par exemple.
D'accord.
Voilà. Donc, trois, quatre phases, c'est vraiment, en tout cas, un bon indice de départ. Bien, on en a fini sur cette partie data binding et
Et
analyse des
performance.
performances. J'espère que ce cours, ce module vous aura plu, que ça aura un petit peu ouvert sur les nouveautés qui sont arrivées avec l'Universal Windows Platform. N'hésitez pas à utiliser XBind, c'est vraiment quelque chose de super sympa. Malgré les limitations, je pense qu'aujourd'hui, dans la majeure partie des cas, on peut l'utiliser. Donc vraiment, vous allez voir une sacrée différence sur la performance de vos applications. On se retrouve pour un prochain chapitre. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.
À bientôt!